Hier soir, on a parlé du baptême, ce que ça voulait dire, le baptême institué dans l'Évangile, le baptême pratiqué dans les Actes des Apôtres, puis le baptême expliqué dans les Épîtres. Puis ce matin, on a vu qu'on était convertis pour attendre et pour persévérer dans le Seigneur. Ce soir, c'est un autre message. Pas comme le prédicateur qui avait été invité, puis il n'y avait rien qu'un message. Il se promenait dans différentes villes, puis donnait toujours le même message. C'est qu'un jour, il est invité pour rester un autre jour, puis ils lui ont demandé de parler, mais il n'y avait rien qu'un message. Il était pas mal embarrassé, il savait pas quoi dire le deuxième jour. Il s'avance en avant, il savait pas ce qu'il allait dire. Il dit, chers amis, il y a eu des rumeurs que j'enseignais des fausses doctrines. Pour éviter tout malentendu, je vais vous redonner le même message. Et moi, je vous ferai pas ça ce soir. On va lire dans Luc chapitre 2, s'il vous plaît. Luc 2, au verset 1. En ce temps-là, parut un édit ou une loi, si vous voulez, de César Auguste, l'empereur romain, ordonnant un recensement de toute la terre. Ça veut dire l'Empire romain. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de la Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, alors parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, des bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte. Et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. On va lire un autre passage, vous pouvez garder la place si vous voulez ici, c'est dans Actes au chapitre 1. Actes des apôtres au chapitre 1er. On va lire au verset 9, acte 1, verset 9. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Jusque-là. Ce soir, j'aimerais, avec l'aide du Seigneur, parler un peu de ce qu'on a lu dans l'Évangile de Luc, de la venue du Seigneur Jésus sur terre, le Fils de Dieu. Dans la Bible, on a lu ce matin à propos d'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Jamais dans la Bible, il est dit que le Fils de Dieu est né. C'est Dieu qui a donné son fils. Il a été donné, Dieu a donné son fils. Mais il est né comme un enfant. Il est venu dans ce monde comme un petit enfant. J'ai pensé que ce serait intéressant de se pencher sur ce que la parole de Dieu a à nous dire. Nous, croyants, qui avons pour doctrine la parole de Dieu, nous qui lisons la parole de Dieu, qui voulons la mettre en pratique, on célèbre pas vraiment Noël comme le monde, parce que on s'occupe pas du calendrier liturgique qui a été créé, institué par les hommes. C'est les hommes qui ont institué des fêtes comme un jour par année de célébrer la naissance du Christ, un autre jour, Pâques, pour se rappeler de sa résurrection. Nous, on croit que c'était les hommes qui ont fait ça. C'est pas vraiment dans la Bible de fixer un jour chaque année pour célébrer la naissance et la résurrection du Christ. La seule fête, on peut dire, que le Seigneur Jésus a instituée, c'est le repas du Seigneur, le mémorial de sa mort, la scène. Scène, ça veut dire repas du soir, parce qu'il l'a institué la veille où il a été livré. Repas du soir. Un repas dans un sens spirituel où on se rappelle de lui. Faites ceci en mémoire de moi, on se rappelle de sa personne, c'est un mémorial. Les hommes ont créé le calendrier liturgique avec toutes sortes de fêtes pour se rappeler du Christ et des saints et de toutes sortes de personnages, mais ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas vraiment institué par Dieu. L'Ancien Testament, avec ses fêtes dans le calendrier juif, était institué de Dieu, mais dans le Nouveau Testament, on ne voit pas ça. C'est les hommes qui ont fait cela. On sait bien que Noël, c'est agréable, on peut se trouver en famille, c'est un jour spécial de congé, surtout pour les enfants, ils aiment ça, ils ont des petits cadeaux, des choses comme ça, ça c'est... Mais ils dépensent beaucoup d'argent pour du gaspillage aussi dans le temps de Noël. Puis tout a été gâté, même commercialisé. On est obligé de le reconnaître. Mais si on ne célèbre pas Noël comme une fête religieuse, on se souvient certainement tous les jours, disons, certainement souvent, de la naissance du Seigneur Jésus. Même chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, le pain nous parle de son incarnation. Quand on a le pain devant nous, on pense à son incarnation et on se rappelle aussi de sa mort, puisqu'on se rappelle qu'il est mort pour nous, puis on se rappelle aussi le dimanche matin qu'il va revenir, parce qu'il a dit « Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne ». On a lu justement dans le premier chapitre des Actes que celui qui est venu va revenir, non plus comme un enfant, comme le Sauveur, mais il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, il va venir régner sur ce monde. Mais avant, il doit venir, comme vous le savez, pour chercher les siens, pour l'Église. Et c'est intéressant de se pencher un peu sur ce chapitre 2 de l'Évangile de Luc, un chapitre merveilleux qui nous montre les événements tels que l'Esprit de Dieu a voulu nous les rapporter. Pas tels que les hommes les imaginent, avec toutes les crèches et puis toutes les affaires qu'on voit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont brodées, qui sont ajoutées, qui sont pratiquement du folklore. Mais là, on a vraiment ce que Dieu a voulu qu'on sache. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre pour satisfaire notre curiosité, mais c'est vraiment pour nous instruire dans les pensées de Dieu. La première chose qu'on voit, c'est que quand le Seigneur est venu, quand le Fils de Dieu est venu, dans ce monde, il n'a pas été annoncé par les médias, comme aujourd'hui certains évangélistes. Il n'a pas été annoncé à gros coups de publicité, hein, par les médias. Pas d'annonce dans les médias. Pas de bienvenue de la part des autorités non plus. Il n'y a pas eu une délégation des autorités. Même, vous rappelez, dans l'évangile de Matthieu, on voit que Hérode n'était même pas au courant qu'il devait naître à Bethléem. Quand les mages sont arrivés, puis sont venus à Jérusalem, ils ne savaient même pas que Hérode il a dû se renseigner. Alors les autorités n'étaient pas là pour lui souhaiter une bienvenue officielle, pas de comité d'accueil non plus. Pas de comité d'accueil, comme le monde en organise aujourd'hui pour les grands personnages qui doivent visiter une ville. Pas de décoration dans les rues non plus. Pas de décoration. Pas de guirlande dans les rues, ni de sapin avec des lumières électriques, évidemment. Il n'y avait pas encore l'Hydro-Québec dans ce temps-là, du reste. Pas de jours de congé pour les travailleurs non plus. Pas de jours de congé, de jours fériés pour célébrer cette naissance. Pas de magasins non plus fermés pour célébrer la naissance du Seigneur Jésus. Aucune publicité tapageuse quand le Seigneur Jésus est venu. On voit donc la simplicité et la sobriété aussi du récit biblique. C'est pas à la classe dirigeante que l'Esprit de Dieu a fait annoncer la naissance du Fils de Dieu. C'est à des bergers. C'est assez significatif quand le bon berger est venu. C'est à des bergers que Dieu l'a fait annoncer. C'est à souligner ça. Quand celui qui a dit « Je suis le bon berger », bien quand le bon berger est venu, c'est à d'humbles bergers qui gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit que Dieu a voulu le faire connaître en premier lieu par un ange et ensuite une multitude d'anges qui se sont joints. Pas aux politiciens, pas aux chefs religieux, pas aux autorités, pas à toutes sortes d'autres personnes qu'on pourrait nommer, mais vraiment à ces bergers ici. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit. Bien, quand est-ce qu'il est venu? Bien, dans l'Épître aux Galates, il nous dit que la plénitude des temps est arrivée au moment voulu par Dieu, un moment précis de l'histoire. C'est important de remarquer que notre foi, la foi biblique, elle est basée sur la Bible, la parole de Dieu d'abord, mais elle est basée aussi sur des événements historiques, authentiques. C'est un fait historique que le Fils de Dieu est venu sur la terre. Dieu s'est incarné dans la personne de son Fils. Alors notre foi est basée sur un fait historique. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, dans bien des certaines croyances, toutes sortes de doctrines et de mouvements de toutes les sortes, c'est très farfelu. C'est basé sur toutes sortes de choses, mais ce n'est pas des faits historiques. Parce que ça, c'est un fait historique que les hommes ne sauraient nier. Même les athées sont obligés, quand ils mettent la date, de mettre la date du jour. Je dis les athées, mais la Bible n'a jamais d'athée. Je parle d'incrédules. Même les incrédules. Parce que la 1910, 90 ans, c'est le Fils de Dieu est venu sur la terre. Jusqu'à 1000 années, le Fils de Dieu est venu sur la terre. Dieu, c'est pour l'homme. Il est venu, il est descendu sur la terre pour que ce soit son âme. Et comme on va le voir, pour qu'on puisse prêcher l'Évangile, pour qu'il y ait une bonne nouvelle à annoncer, parce qu'un sauveur est venu là. Et d'emblée, je m'empresse de dire, s'il y a un sauveur, il doit y avoir des sauvés. Et la question qui se pose à chacun de nous personnellement ce soir, s'il y a un sauveur, puisqu'il y a des sauvés, êtes-vous sauvés? Il y a des multitudes de gens qui, dans ces jours, un jour qui s'approche, vont se rappeler dans un sens de la naissance du Christ, un certain point de vue, ils entendent dans les centres d'achat les chants de Noël, mais vraiment, il n'y a rien qui reste. Ils ne pensent même pas au fait que s'il y a un sauveur, il devrait être sauvé. Sinon, il est venu pour rien. Et la Bible est claire qu'il est venu pour nous sauver. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Donc, s'il y a un sauveur, c'est clair, il doit y avoir des sauvés. Et on doit savoir si on est sauvé. Si ce soir, je suis devant vous pour parler de ces choses, c'est parce qu'un jour, j'ai fait l'expérience qu'il était venu pour me sauver, personnellement, que j'avais besoin d'être sauvé, moi aussi, bien qu'ayant connu la parole de Dieu depuis mon enfance, j'avais besoin d'une rencontre personnelle et intime avec le Sauveur pour être sauvé moi-même. Et ça fait bien plus de 40 ans maintenant que je suis sauvé par la grâce de Dieu. Sauvé. Alors, la parole nous montre donc comme il est venu. Il est venu au temps fixé par Dieu. Et il est venu dans un temps spécial. Voyez-vous, au début du chapitre 2, on a lu, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste. Ça veut dire une loi pour l'empereur qui, lui, fait un décret, un édit, c'est une loi impériale, pas pour recenser pour une élection ou une votation ou un référendum pour taxer. C'est pas la TPS, c'est pas un précédent, ça. Hein? Les gouvernements taxent. Alors, c'était pour taxer un recensement en vue d'une taxation. Alors, lui, l'empereur, imaginez-vous, l'empereur romain, c'était loin de la Palestine, c'était loin de Jérusalem, de Nazareth, de Bethléem. C'était loin, ça. Eh bien, l'empereur, il décide, ça prend l'argent. Pour remplir les coffres de l'État, on va faire un recensement, le monde va se déplacer. Et puis, on va les taxer. Il voulait recenser le peuple partout, toute la terre, dans le début de la Bible, ça veut dire l'Empire romain. Ça ne veut pas dire vraiment la terre entière, la terre habitée. C'est une expression dans la Bible, dans le langage biblique, qui veut dire tout l'Empire romain, le monde civilisé de l'époque. Il devait se faire inscrire dans leur ville d'origine et ils devaient, c'était en vue d'être taxés. Donc, en ce temps-là, et vous, la Bible précise en quel temps. Alors, un empereur peut décider, comme si c'était lui qui décide tout, un homme important, mais sans savoir, il accomplit les desseins de Dieu. Parce que le Christ, le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, il devait venir et l'enfant devait naître à Bethléem. Dans le livre de Michée, au chapitre 5, c'est marqué, et toi Bethléem, tu n'es pas la moindre des tribus, parce que c'est là, c'est de toi que naîtra un chef. C'était à Bethléem qu'il devait venir au monde. Alors il fallait que Joseph et Marie, qui étaient de Nazareth, il fallait qu'ils viennent à Bethléem. Et Dieu arrange toutes choses pour que ses desseins s'accomplissent. C'est lui qui est au-dessus de tout. De tout. De tout ce qui est grand, de tout ce qui est petit. Et même pour vous personnellement ce soir, vous ne connaissez pas tous intimement, mais ce n'est pas pour rien que vous êtes ici. Dieu qui gouverne toutes choses, Dieu qui arrange tout, ce qui est grand aussi bien ce qui est petit, dans la création aussi bien les astres que dans ce qui est petit l'atome, parmi les humains pour inciter un empereur à faire un... aussi bien que pour vous personnellement, si que vous savez que vous entendez l'Évangile, c'est Dieu qui arrive. Il n'y a pas de hasard. Il semblerait que les choses arrivent comme ça, comme par hasard, mais sans hasard. Il fallait que ça arrive. Et pour vous ce soir, sentez-vous, c'est pas pour rien que vous entendez l'Évangile. Peut-être pour la première fois, peut-être pour la huitième fois, je ne sais pas, mais vous avez besoin d'entendre l'Évangile ce soir. Que Dieu vous aide, il y a un message pour vous. Un message qui vous concerne. Bien, des millions de gens ont dû se déplacer depuis leur ville où ils habitent jusqu'à l'endroit où ils sont nés. Et Nazareth, à Bethléem, il y a environ 110 kilomètres. Et on veut ça à pied. Marie, enceinte, a fait ce voyage à pied. À pied. Ou peut-être à Dodane par boum, je sais bien qu'une femme enceinte à Dodane, d'eau de lait, ça ne devait pas être des plus roses, des plus gaies. Tout ce voyage pour venir à Bethléem. Parce que les conseils de Dieu, les plans de Dieu, doivent s'accomplir. Malgré tout ce que les hommes peuvent, malgré les hommes qui peuvent s'y opposer. Tout doit conquérir à l'accomplissement des desseins de Dieu. Tout est subordonné à la volonté de Dieu. Et Dieu dispose aussi bien d'un empereur que d'un homme de charpentier pour que ses desseins s'accomplissent. Et ses desseins doivent s'accomplir. Donc, il est venu au moment voulu par Dieu. Et vous remarquez que c'était pendant la nuit. Maintenant, je n'ai pas de doute que c'était littéral. C'était littéral qu'au milieu de la nuit, que l'ange est apparu, les bergers, etc., ont été informés. La scène décrite qu'on a lue là, c'était pendant la nuit. Mais c'est aussi vrai que c'est spirituel. La lumière a brillé dans un monde de ténèbres. C'est aussi vrai dans un sens moral. Parce qu'il nous est dit, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Si vous releviez dans votre Bible, en particulier dans l'Évangile de Jean, tous les passages qui parlent de la lumière et des ténèbres, bien, vous auriez tout un travail à faire. Moi, j'ai relevé une fois, puis copié à la main, tous les passages qui parlent de la lumière et des ténèbres. Mais il y en a dans toute la Bible, c'est énorme, c'est symbolique. On dit depuis le début où Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres, mais dans l'Évangile de Jean, c'est marqué, la lumière est venue dans ce monde. La lumière a brillé dans ce monde.
parce que le Seigneur Jésus est la lumière. Il a dit au Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors il est venu, lui, la lumière du monde, dans un monde de ténèbres. Et c'est symbolique aussi. Quand il est venu, il était dans les ténèbres, dans un monde, pour symboliser les ténèbres de ce monde. Mais où est-ce qu'il est venu? Bien, il n'est pas venu dans le luxe. Il n'est pas venu dans le luxe. On entend dire souvent dans une étable. C'est peut-être vrai, mais c'est pas marqué. C'est pas marqué. Il y a une crèche, il y avait des crèches dans la cour intérieure des maisons, parce que vous savez qu'en Orient, les maisons ne sont pas faites comme à Montréal. Mais il y a une cour intérieure, et c'était peut-être là qu'il y avait une crèche, pour faire attention de ne pas en rajouter. Hein. L'homme, il aime ajouter à la parole de Dieu, puis retrancher ce qui est important. Il faut garder l'important, puis il ne faut pas rajouter de détails, juste pour broder les récits bibliques. Mais il est venu dans un lieu certainement humble, pas dans un palace. Pas dans les hôtels, parce que les hôtelleries, étaient réservées aux gens plus importants qu'à un simple charpentier de Nazareth. Il y avait des gens qui avaient un rang social plus élevé, alors ils avaient ramassé toutes les chambres, et puis il n'y avait pas de place pour Joseph et Marie dans l'hôtellerie. Et c'est significatif, dans le monde, dès le début de l'arrivée du Seigneur Jésus, pas de place pour lui. Est-ce qu'il a une place dans votre cœur? Il cherche une place, plus dans un sens littéral et physique, comme à l'époque. Ça, je répète, c'est vrai, physiquement c'est arrivé comme ça. On le croit fermement, mais dans un sens moral. Le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus, cherche une place dans la vie et dans les cœurs des personnes. Mais même parmi ceux qui sont excités à la période des fêtes, pas de place pour lui. Pas de place pour lui. Pas de place dans leur vie et dans leur cœur pour le Fils de Dieu. Et c'est pourtant ça qui compte. C'est ça qui est important, c'est qu'il ait une place dans ma vie, dans votre vie, dans ta vie et dans ton cœur. Pas de place pour lui. Et même dans le monde, à travers tout son ministère, on voit combien il a été rejeté, il a été méprisé, pas de place pour lui. Même plus tard, il a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, le Fils de l'homme, pas un lieu où reposer sa tête. Pas de place pour lui dans ce monde. Alors, c'est une question à laquelle vous devez répondre personnellement. Chacun de nous doit y répondre. Est-ce qu'il a une place? Tant qu'on n'est pas sauvé, il n'y a pas vraiment sa place dans notre cœur. Et même le Seigneur Jésus a enseigné, vous connaissez la prière, que le Seigneur a enseigné, qu'on appelle notre Père communément, que ton règne vienne. Son règne ne peut pas venir sur la terre tant qu'il n'a pas de place dans notre cœur. Que ton règne vienne dans ma vie, dans mon cœur. Un règne, c'est là où il y a un roi, c'est là où il y a quelqu'un qui commande. Alors il doit venir dans notre vie et il doit commander. Il a toute autorité, il a le droit d'avoir la place, la première place, la place d'honneur dans votre vie. Et le premier pas pour lui donner la place, c'est d'accepter l'Évangile, de l'accepter lui, parce que l'Évangile, c'est lui. Il est inséparable de l'Évangile. S'il n'était pas né, il n'y aurait pas d'Évangile. Seigneur Jésus n'est pas venu pour prêcher l'Évangile, quoi qu'il prêchait l'Évangile. La bonne nouvelle, que le roi est là, mais l'Évangile du royaume, mais plus que pour prêcher l'évangile, il est venu pour qu'il y ait un évangile à prêcher. Oui, hein? Il est venu pour qu'il y ait un évangile à prêcher. S'il n'était pas venu, il n'y aurait pas de bonne nouvelle, pas d'évangile. Pas d'évangile. Bonne nouvelle. À travers toutes les mauvaises nouvelles. On ne sait pas qu'est-ce que le journal va nous annoncer demain matin. Il y en a des choses qui arrivent, hein, dimanche passé. On ne savait pas qu'il y avait des jeunes filles qui allaient se faire tuer à l'école polytechnique de Montréal. Il y a quelques mois, les plus hauts politiciens du monde, les plus importants, ceux qui gouvernent la planète, ne savaient pas le revirement qui allait arriver dans les pays de l'Est. Imprévisible. Dieu le savait. Dieu est appelé le Dieu de paix. Ça veut dire qu'il est troublé par rien. Dieu est troublé par rien. Il n'y a rien qui arrive puis qu'il bouleverse. Il ne savait pas que ça allait arriver. Nous, on est troublé. Quand il arrive des affaires qui nous arrivent personnellement, dans nos circonstances personnelles, aussi bien qu'au niveau de notre ville, de notre province, ou du pays, ou du monde. On ne connaît pas l'avenir. L'avenir est à Dieu. Mais Dieu, tout est présent devant lui. Il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Est-ce qu'il y a de la place pour lui dans votre vie, à vous, dans votre cœur? S'il n'y a pas de place, bien, c'est bien dommage. Vous allez être éternellement là où vous n'aimeriez jamais aller, loin de lui pour l'éternité, perdu pour l'éternité. Je me rappelle quand j'étais petit garçon, mon père avait un ami qui était prédicateur de l'Évangile. On avait été invités en famille, mais j'étais petit, pas mal petit gars dans ce temps-là. Je pense qu'il parlait de ceux qui étaient perdus. Puis il avait dit comme ça, à table, la conversation était sur les choses de Dieu. Il avait parlé des perdus, sans doute, puisqu'il avait dit « toujours, jamais, jamais ». Bien, il y a un sauveur qui est venu pour que vous n'ayez pas besoin d'y aller. Mais il veut avoir une place maintenant dans votre cœur. Savez-vous, on a dit du ciel, c'est un lieu préparé pour les gens qui sont préparés. Oui, un lieu préparé. Le Seigneur a dit dans Jean 17, je vais vous préparer une place. Non, dans Jean 14, pardon. Je vais vous préparer une place. Et puis, il y a dans Amos, chapitre 4, au verset 12, ce ferreur, il dit, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Prépare-toi. Un lieu préparé pour les gens préparés. Il y a une place pour ceux qui sont préparés. Êtes-vous préparés? Sans vouloir faire du chantage, mais on a vu cette semaine comment on peut passer dans l'éternité. Il y en a qui pensent que... Ils font toutes sortes de commentaires sur les événements qui ont eu lieu à l'école polytechnique, mais ça peut arriver n'importe où. Avec ce qu'on montre à la télévision, la violence, dans un centre d'achat, ça peut arriver. Qu'un imbécile, qu'un dérangé mental vient avec une carabine, commence à tirer sur le monde dans un centre d'achat, n'importe où ça peut arriver. Un accident peut arriver n'importe où, plus vite qu'on pense. Et aussi, on peut mourir plus vite qu'on pense. Il y a une sœur de l'Assemblée à Sainte-Foy, elle a été élevée dans l'Assemblée à Jonquière. Elle a un de ses frères qui était inconverti. 35 ans, il est mort d'une attaque, de même, cette semaine. 35 ans, mort d'une attaque. Un jeune homme vient s'acheter une maison. Il vient tout juste d'acheter une maison, il a un enfant, ou deux, je ne m'en rappelle pas, mais lui était élevé dans une assemblée à Jonquière, pas converti. Il est mort d'une attaque, subitement. C'est arrivé cette semaine. On pourrait multiplier les exemples de gens qui passent dans l'éternité sans être prévenus. Mais ils n'avaient pas de place dans leur vie pour le Seigneur Jésus. Si on veut avoir une place là-haut, il faut qu'il lui ait une place ici, déjà maintenant. Pas de place pour lui dans ce monde. Dès les premiers moments de sa vie. Plus tard non plus, il n'y avait pas de place. Il y avait de la place pour Barabbas, mais pas pour lui. Crucifie, crucifie. Ou comme dans la parabole que le Seigneur a dit, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Pas de place. Le monde ne veut pas. Même ceux qui célèbrent à grande pompe, à coups de banquet, de cadeaux, qui font des arbres de Noël, pas de place. Pas de place. Alors c'est la grande des questions à laquelle vous devez répondre. On ne vous demande pas de lever la main, on vous demande dans le secret de votre cœur de répondre à cette question. A-t-il une place dans votre cœur, dans votre vie? On va dire deux mots pour terminer sur la raison de sa venue. Qu'est-ce que le ciel a dit lorsqu'il a été introduit dans ce monde? Ben, c'est ce qu'on voit ici, il dit, aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Un sauveur pour les perdus. Si on parle de sauveur, pour sauver quoi? Qui, devrais-je dire? Ben, les perdus. Alors, si on veut être sauvé, il faut reconnaître qu'on est perdu. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Verset 11. Donc, un sauveur pour les perdus. Qui est le Christ? Le Christ promis, et puis finalement, le Seigneur présent. Un sauveur pour les perdus, le Christ promis, le Seigneur présent. 3 P. Un sauveur pour les perdus. Vous savez, Dieu ne sauve que des pécheurs perdus. Savez-vous pourquoi il n'y a pas plus de gens qui sont sauvés? C'est pas difficile à répondre à cette question-là. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de gens qui sont sauvés? Bien, c'est parce qu'il ne sauve que les perdus. C'est pas n'importe qui se dit perdu. Le monde se dit plutôt pas pire que perdu. Capable de se débrouiller tout seul, mais toujours débrouillé dans la vie, dans les circonstances les plus difficiles. Où on parle aux gens qui sont perdus, ils changent la conversation. Parce que reconnaître qu'on est perdu, c'est avouer plus ou moins la défaite. Avouer que on n'a pas pu se sauver nous-mêmes. Bien oui, il est venu pour les perdus. C'est pas moi qui dis ça. Le Seigneur Jésus a dit, lui-même, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est chez Zachée qu'il a dit ça, dans Luc 19, au verset 10. Il a dit, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, il faut reconnaître qu'on est perdu. Mais c'est facile de dire, on est tous perdus. Mais plus que ça, je suis perdu. Moi, je dis plus, je suis perdu, parce que je suis sauvé. Je dis, j'étais perdu, mais je suis sauvé. J'étais perdu. J'ai reconnu que j'étais perdu et il m'a sauvé. C'est la première des choses. C'est le premier pas, c'est de reconnaître qu'on est perdu. Parce que Dieu ne sauve que des pécheurs perdus. Seigneur Jésus l'a dit dans Luc chapitre 5, ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecin. C'est ceux qui se portent mal, ceux qui sont malades. Donc il faut reconnaître notre maladie, notre péché, notre culpabilité si on veut être sauvé. C'est la première des choses. Le premier pas pour être sauvé, c'est de reconnaître notre état de perdition. Il vous est né un sauveur. Pour des tels, il y a un salut. Et l'apôtre Paul, avec Silas en prison, quand le gardien de prison a demandé, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?»« Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Mais ça a été dit à un homme qui savait qu'il était perdu. Il faut d'abord savoir et croire, réaliser devant Dieu le terrible état, c'est que je suis perdu. Ensuite, c'est le Christ Christ, ça veut dire oint. Christ, ça vient du grec Christos. C'est la même chose que le mot Messie, qui vient de l'hébreu, qui veulent tous les deux mots veulent dire oint. C'était celui qui était roi, était oint avec une petite fiole d'huile qu'on versait sur la tête, en signe qu'il allait devenir roi. Le Christ, ça veut dire loin, c'est-à-dire le roi. Le roi aimé, le roi des Juifs, le roi, celui qui est digne de régner, celui qui était promis dans l'Ancien Testament, est venu. Dieu est un Dieu de promesses. Je ne me rappelle pas exactement, mais je pense que dans la Bible, il y a 22 000 promesses, si je me rappelle bien. 22 000, des milliers de promesses. Et Dieu tient ses promesses. Dieu garde ses promesses. Pas des promesses d'élection. On connaît ça, les promesses d'élection. Des vraies promesses. Des promesses, il nous est dit, elles sont oui et amen en Dieu. Il y a toutes les promesses que Dieu fait, les garde. Il avait promis un rédempteur. Il avait promis le Christ, loin. À travers toutes les Écritures, depuis la Genèse, à travers toutes les Écritures, dans Moïse, les psaumes, les prophètes, toujours plus précisément, il était annoncé. Et il était là. Il était là. Troisièmement, le Seigneur. Le Christ, il vous a mis un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, présent. Présent. Alors, Dieu a exécuté ce qu'il avait promis. Il a envoyé son fils, qui est roi, mais qui est aussi le sauveur. Et on va terminer avec ceci, cet appel de nouveau, la nécessité d'accepter. Savez-vous, moi j'aime à dire que l'évangile c'est deux choses. Une information et une invitation. On informe les faits bibliques. La vérité c'est ça, c'est une information qu'on véhicule, qu'on communique publiquement, en privé, à tous ceux qui veulent l'écouter. L'information que vous avez besoin d'un sauveur, que vous avez besoin de quelqu'un qui vous sorte de votre état de péché, quelqu'un qui vous aime, qui veut vous prendre pour l'éternité dans la maison de Dieu, au ciel, maison du Père, dans la présence du Seigneur. L'information et une invitation. C'est plus qu'une information, c'est aussi une invitation. Une invitation à l'accepter, à le recevoir. Une invitation, on peut accepter ou refuser. Bien sûr, il y a des invitations qu'on ne peut pas toujours accepter. Mais celle-là, si quelqu'un la refuse, ou plus que ça, si quelqu'un la néglige, bien, il commet la plus grande insulte vis-à-vis de Dieu. Le péché que Dieu ne peut pas pardonner, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Donc, en résumé, il faut croire ces récits de la parole, il faut croire ce que la Bible nous dit, la vérité, mais il faut l'appliquer à notre personne. On peut dire, moi je crois que c'est vrai ça, mais c'est pas assez. Croire que c'est vrai, que croire que c'est des faits historiques, authentiques, il faut vraiment accepter non seulement le message, mais la personne qui est l'objet de ce message, c'est-à-dire le Seigneur Jésus lui-même. Il veut avoir une place d'honneur dans votre cœur et dans votre vie. Alors si ce n'est pas déjà fait, bien c'est grand temps que vous le fassiez. Ça presse. Parce que comme on l'a dit, on ne sait pas, on ne peut pas dire, bien écoutez, pensez-y bien, puis on en reparlera dimanche prochain. On raconte que le grand évangéliste Moody, il avait dit ça, à dimanche prochain, pensez-y ou quelque chose du genre. Puis pendant la même semaine, il y a eu la grande conflagration à Chicago, un incendie qui a ravagé les quartiers. Et puis beaucoup des gens qui étaient là n'ont pas pu revenir à la réunion dimanche prochain. Parce qu'il n'y a pas eu de... Ils n'ont pas pu, ils n'étaient plus là. Ils ont passé dans l'éternité. Pendant la même semaine. Péris dans le feu. Bien, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais le mot de Dieu, c'est aujourd'hui. L'invitation est adressée, les faits ont été déclarés, il y a un sauveur qui est né, qui a fait la joie des bergers, c'est quelque chose de merveilleux, Dieu est venu jusqu'à l'homme, vous ne pouvez pas vous élever jusqu'à Dieu, on ne peut pas rejoindre Dieu, mais Dieu est venu jusqu'à nous, dans la personne de son Fils, pour nous sauver. Et tout cela, tout ce récit, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, nous fait voir cela. Maintenant, c'est à vous, maintenant, de l'accepter dans votre cœur, dans votre vie, par un simple acte de foi. Si vous ne savez pas comment, faites-le dans vos propres mots. Ce n'est pas des mots qu'on veut mettre dans votre bouche pour faire de vous des sauvés d'une façon mécanique ou en vous obligeant de réciter des prières que nous, on vous prépare, mais dans vos propres paroles. Dites-lui que vous reconnaissez votre culpabilité, que vous l'acceptez comme votre sauveur et maître. Et vous verrez, ça va changer votre vie. Transformez la vôtre comme ça a transformé celle de la plupart de nous ce soir et de bien d'autres dans le monde entier. Alors que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous aide tous à prendre une bonne décision. Parce que Dieu nous aime, Dieu l'a prouvé, sa parole est là, Dieu s'est dérangé. Est-ce que vous allez en faire cas? Allez-vous vraiment le recevoir, l'accepter? Prions. Notre Dieu, nous te remercions de ce que aujourd'hui c'est un jour de grâce, de salut, où l'Évangile peut être annoncé. Seigneur, Jésus est venu, ton Fils bien-aimé, comme Sauveur, et nous te demandons que tu touches les cœurs de ceux qui, parmi nous peut-être, ne seraient pas sauvés, afin qu'ils fassent ce pas décisif dans leur vie, d'accepter le salut, la personne même du Seigneur Jésus, comme leur Sauveur personnel. Notre Dieu, bénis l'Évangile qui est annoncé partout dans ce monde aujourd'hui. Et maintenant, sois avec nous pendant la semaine qui vient. L'avenir est entre tes mains. Nous nous remettons ainsi à toi, te demandant d'être avec nous, de nous guider, nous garder, nous protéger, nous qui te connaissons, et de faire que ceux qui nous entourent, qui ne te connaissent pas, viennent aussi à la connaissance de l'Évangile. Amen.